Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dans les affaires de bébés que l'on soupçonne d'avoir été secoués, les premières heures sont déterminantes. Examens médicaux, auditions, placements, tout se décide vite. Et une personne est au centre de la procédure judiciaire, le substitut du procureur. À Nancy, Elsa Pincé est plus particulièrement chargée des mineurs. Elle nous explique comment elle prend ses premières décisions et toute la procédure qui va suivre ce signalement. Comment est-ce que je dois vous appeler? Est-ce qu'on dit « Madame la substitut du procureur » C'est comme ça le titre officiel?
Alors non, on dit toujours pour quelqu'un qui fait partie du parquet « Madame ou Monsieur le procureur » quand on est à l'extérieur du parquet. Au fur et à mesure de notre carrière, on monte dans une chaîne hiérarchique au sein d'un parquet. Donc dans un parquet, vous allez toujours avoir le procureur et éventuellement, sous ses instructions, il peut y avoir des procureurs adjoints, des vice-procureurs ou des substituts. Donc substitut, ça veut juste dire que je suis parquetière en tout début de carrière, donc dans les 7-8 premières années d'exercice, je serai substitut, sachant que par contre, on est ce qu'on appelle indivisible, contrairement à nos collègues du siège, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes pouvoirs. J'ai les mêmes pouvoirs que mon procureur, je peux faire exactement la même chose que mon procureur, mais je le fais sous l'autorité hiérarchique de mon procureur, des procureurs adjoints, des vice-procureurs, donc c'est juste une question de grade, mais en termes de pouvoir, ça ne change rien. Je peux faire exactement la même chose que tous mes collègues. D'ailleurs, je peux le faire à la place de mes collègues et mes collègues peuvent le faire à ma place également.
À Nancy, combien de substituts du procureur est-ce qu'il y a? Et est-ce qu'ils sont tous spécialisés dans un domaine ou chacun peut faire un peu tout
Alors à Nancy, vous êtes dans une juridiction de groupe intermédiaire. On est un groupe 2. Donc ça correspond à nous un parquet de 18 parquetiers. Donc vous avez un procureur, 3 procureurs adjoints, nous avons 2 vice-procureurs et le reste c'est des substituts, donc il y a une dizaine de substituts à peu près. Sachant qu'on a chacun des spécialités différentes, donc il y a des magistrats qui sont en charge de l'action publique, donc qui sont en gros dans un système de permanence où on répond au téléphone, on dirige les enquêtes au quotidien. Et il y a des magistrats qui sont plutôt dans des cabinets de suivi. Donc, on a tous des cabinets avec des dossiers qu'on suit, mais il y en a qui sont plus dans des contentieux, on va dire, avec des dossiers qui prennent du temps, qu'il faut suivre, qui nécessitent de lire beaucoup de choses, de faire des enquêtes au long cours. Donc, on n'a pas exactement le même métier. Après, il y a différents types de spécialités. Il y en a qui vont s'occuper des majeurs, d'autres des mineurs, d'autres de l'exécution des peines, d'autres plutôt de l'écofit, du droit de l'environnement. Enfin, il y a plein de métiers différents. En fait, au sein d'un même parquet. On se compare souvent aux urgences de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a nos opérations prévues, anticipées au long cours, donc les audiences, etc. Et en même temps, il y a un système d'urgence à proprement parler, c'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, il faut toujours que le parquet puisse être joint. Donc ça peut être une enquête pour meurtre, ça peut être une prise d'otage, ça peut être un enfant à placer en urgence, ça peut être plein de choses. Et donc, on a une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a toujours un parquetier qui est disponible à l'écoute. Sachant que en fait, on nous appelle, quand c'est les policiers et les gendarmes, pour contrôler leur action, mais qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire, heureusement, sans nous appeler d'initiative.
Et alors vous êtes plutôt spécialisé mineur, c'est ça, affaires de mineurs?
Exactement.
Qu'est-ce que ça regroupe?
Alors ça regroupe, on a une spécificité en France qui est intéressante, qui est que les juges des enfants, donc les juges du siège, en charge des mineurs sont à la fois compétents pour la protection des enfants et pour l'enfance délinquante. C'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois des mineurs qui commettent des infractions, donc des mineurs délinquants, et à la fois des mineurs qui sont en danger. Donc en fait, on va faire le lien avec les juges des enfants pour ces deux catégories de mineurs.
Prenons spécifiquement le cas des bébés secoués qui nous intéresse aujourd'hui. Comment ça se passe au début? Ce sont les policiers qui vous appellent ou c'est le médecin qui communique avec vous directement?
Ça peut être les deux. En général, le circuit, ça va être un signalement qui émane du médecin. Donc, en général, c'est l'hôpital pour les bébés secoués, vu la gravité des symptômes, qui va transmettre l'information au parquet. Parce que le parquet a cet avantage de permanence. C'est-à-dire que nous, on est branchés en permanence sur le téléphone, sur la boîte mail, et on peut réagir très très vite quand on a une information de cette nature. Et donc, une fois qu'on a reçu cette information, on va nous la transmettre au service d'enquête compétent, donc police ou gendarmerie, pour ouvrir une enquête. Donc en général, ça se fait plutôt dans le sens hôpital, procureur, service d'enquête. En tout état de cause, il y aura un échange dès le début des investigations entre ces trois services, le parquet, le service enquêteur et l'hôpital, pour se coordonner, que ce soit sur les actes d'investigation à proprement parler ou sur la prise en charge de l'enfant qui, dans cette hypothèse, est hospitalisé.
Est-ce que vous appréhendez le bébé secoué de façon particulière?
Disons que nous, c'est vrai qu'en termes de cadre juridique, il n'y a pas de qualification juridique spécifique bébé secoué. Pour nous, c'est un dossier de violence sur mineur. Après, c'est vrai que c'est des dossiers qui sont appréhendés de manière un peu spécifique parce que, premièrement, il y a une importance très très forte de qu'est-ce qu'on fait dès le début. Il y a vraiment ce que nous, on appelle une stratégie d'enquête à mettre en place très rapidement dès les premières heures. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si on ne les fait pas dans les premières heures, après, c'est trop tard, ça ne servira plus à rien et on risque d'avoir une enquête qui est dégradée si on ne le fait pas très rapidement. Et il y a en plus le fait que quand on a la suspicion d'un syndrome du bébé secoué, on sait très bien aussi que les investigations médicales vont être très importantes. Une bonne partie de notre enquête va quand même dépendre d'investigations extérieures et d'avis extérieurs à ce que nous, on peut faire classiquement en matière de violence.
Vous le disiez, vous intervenez dans les premières heures quand on vous signale un cas de bébé secoué. Quelle est l'importance de la parole des médecins? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent, voilà, c'est un signalement de bébé secoué selon nos recommandations, selon les symptômes?
Alors nous, ce que font les médecins, c'est ce qu'ils font dans tous les cas de violence, c'est-à-dire qu'ils nous dressent un certificat médical tout simplement. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on a un enfant qui est hospitalisé dans notre hôpital, il présente tel symptôme, telle lésion, et il y a une suspicion. Ils disent jamais il y a un syndrome du bébé secoué à ce stade-là, c'est beaucoup trop tôt. Ils disent il y a une suspicion de bébé secoué. Tout l'enjeu de l'enquête, ça va être de déterminer si cette suspicion finalement elle est fondée ou pas, est-ce qu'il y a ou pas un syndrome du bébé secoué, et donc sur la base de ce certificat, de lancer encore une fois les investigations qui sont en lien. Après, la réponse à la question « y a-t-il oui ou non un syndrome du bébé secoué ?», c'est une réponse qu'on peut avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, parce qu'on sait très bien que ça va devoir donner lieu à des expertises complémentaires, à des confrontations de points de vue, faire appel à des médecins qui sont spécialisés au niveau national aussi sur ce syndrome. Et forcément, tout ça, ça prend du temps. C'est pas la première consultation aux urgences pédiatriques qui va nous dire « oui, à 100%, c'est sûr, il y a un syndrome du bébé secoué ».
Quelles sont les premières décisions que vous, en tant que substitut, vous pouvez prendre quand on vous signale un cas de bébé secoué ?
Alors, on a deux types de décisions à prendre. Et ça fait référence à ce que je vous disais avant sur la double casquette. C'est-à-dire qu'on a à la fois la direction d'enquête. Donc ça, la décision, elle est très simple. C'est « j'ouvre une enquête ». Pour de potentielles violences sur mineurs, ça on sait faire, c'est notre boulot, et faire ce qu'on appelle la liste de courses au service d'enquête, c'est-à-dire j'attends que vous entendiez telle personne, j'entends que vous demandiez telle réquisition à des experts, qu'éventuellement on fasse des réquisitions téléphoniques, etc. Ça c'est nos actes d'enquête, donc c'est des décisions, c'est notre cœur de métier, c'est pas très compliqué. L'autre décision qui est plus compliquée à prendre, c'est la décision sur le volet protection de l'enfance, d'où l'intérêt d'avoir des magistrats spécialisés en protection de l'enfance, puisqu'on sait aussi comment ça marche, on sait ce qu'on peut demander à nos services, etc. Et là, ça va être la décision concrètement de qu'est-ce qu'on fait de l'enfant. Si on a un enfant qui est hospitalisé, malheureusement parce qu'il est dans un état grave ou très dégradé, on a le temps, puisque de toute façon, il n'y a pas de question de retour en famille, il n'y a pas de question de sortie à l'extérieur. Donc on va utiliser ce temps d'hospitalisation pour faire une évaluation et on va se donner un petit peu de temps finalement pour prendre notre décision. Si c'est un enfant avec une suspicion de bébé secoué, mais on nous dit il a peut-être été secoué, mais il va bien, ça arrive, hein, heureusement, il y a tous les enfants qui sont secoués et n'ont pas de séquelles non plus graves à vie, etc. Il est sortant d'ici 2-3 jours, nous, il faut qu'on sache, est-ce qu'on le laisse sortir? Si oui, chez qui? En gros, est-ce qu'on le remet aux parents ou pas? Concrètement, c'est ça la décision à prendre.
Ça, c'est une décision que vous prenez toute seule? Comment est-ce qu'on peut prendre une décision si délicate? Quels éléments on a pour juger? Et comment vous faites pour essayer de trouver la bonne décision?
Bien évidemment, notre boussole, c'est l'intérêt de l'enfant. Face à la protection de l'enfant, il y a les droits des parents, c'est-à-dire pas les droits des parents à récupérer leur enfant à tout prix, mais en tout cas la prise en compte de la présomption d'innocence, du fait qu'il y a un lien parent-enfant qui existe. Et on a aussi à mettre dans la balance le préjudice que peut causer à l'enfant une séparation. En le plaçant, je sais que je le préserve de tels dangers, mais est-ce que je le mets pas par ailleurs en danger en le privant d'un lien d'attachement avec ses parents? Notamment quand c'est des petits bébés, parfois il y a toujours de l'allaitement avec la maman, ils ont connu que forcément leur chez eux, leurs parents, la relation avec les frères et sœurs. Donc on essaie toujours de faire la balance entre eux, c'est-à-dire quel risque je prends d'un côté en remettant cet enfant à sa famille alors que potentiellement c'est sa famille qui a commis des violences, et en parallèle quel risque je prends en ne remettant pas l'enfant à sa famille en termes de rupture du lien, etc. Donc il y a ces deux décisions. Je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas moi qui constate, et je ne suis pas non plus éducatrice. Je ne suis pas travailleur social, donc moi je ne sais pas si les parents ont une attitude adaptée, je ne sais pas s'il y a d'autres inquiétudes par ailleurs sur la prise en charge. C'est sûr que la décision elle va être beaucoup plus simple si on a un faisceau d'indices, c'est-à-dire si on a d'un côté la suspicion du bébé secoué Et de l'autre côté, par exemple, d'autres traces de violence. Ça arrive qu'on ait des bébés qui arrivent avec un syndrome du Escoué, ou par ailleurs, il y a déjà des fractures anciennes, il y a déjà des hématomes qui n'ont rien à voir pour le coup avec le bébé Escoué, etc. On se dit, bon, manifestement, il y a un contexte de maltraitance, donc la question du placement, elle est vite, vite cadrée. C'est vrai que quand on a une famille qui, par ailleurs, n'a jamais fait parler d'elle, qui a un comportement plutôt adapté, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la fuite des médecins, qu'il n'est pas dans la fuite des personnels d'évaluation, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer justement sur les personnes qu'on a, nous, sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va demander une évaluation en urgence. En disant, en point négatif, finalement, qui me pousserait au placement, j'ai la suspicion de bébé secoué, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme autre élément pour évaluer les capacités de cette famille à protéger cet enfant?
Et alors après, il y a deux chemins parallèles qui se déploient, c'est ça? Il y a d'un côté, est-ce qu'on rend l'enfant aux parents, et de l'autre côté, toute la procédure judiciaire qui démarre, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se scinde en deux et comment il y a deux parties qui sont parallèles?
En fait, c'est toujours les deux chemins parallèles du début qui se poursuivent. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté la procédure pénale pour les violences. L'objectif d'une procédure pénale, c'est toujours le même. C'est premièrement, y a-t-il eu une infraction? Deuxièmement, si j'arrive à prouver qu'il y a une infraction, est-ce que j'arrive à imputer cette infraction à quelqu'un? Et ensuite, vous allez avoir la deuxième partie en protection de l'enfant, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui est potentiellement en danger parce que j'ai cette suspicion de violence. Est-ce que ça nécessite un suivi judiciaire ou pas? Dans les cas les plus inquiétants, on va placer provisoirement, sachant que cette première décision de placement provisoire, comme son nom l'indique, elle est provisoire, et que le parquet ne peut pas maintenir un placement ad vitam aeternam. On a l'obligation, passé un certain délai, donc un délai de 8 jours, de nous saisir un juge des enfants, de passer la main à un magistrat du siège, dont la spécialité est de s'occuper des enfants, et qui, lui, va prendre des décisions dans le cas de cet enfant, maintenir un placement, restituer l'enfant aux parents, maintenir un placement au sein de la famille. Ça peut être un placement chez les grands-parents, ça peut être un placement chez ce qu'on appelle des tiers dignes de confiance, etc. Donc il y a vraiment ces deux chemins en parallèle. En gros, d'un côté, il va y avoir le juge d'instruction qui va poursuivre l'enquête, et de l'autre côté, le juge des enfants qui, lui, va poursuivre le suivi de l'enfant. C'est deux choses qui sont complètement parallèles.
Est-ce que l'un peut influer sur l'autre? Est-ce que, par exemple, si le juge des enfants décide que, finalement, on rend l'enfant aux parents ou qu'il n'y a rien de spécifique, ça influence l'autre partie de la procédure ou pas du tout?
Alors, pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que la décision des juges des enfants se base uniquement sur l'existence d'un danger et les compétences parentales à faire face à ce danger. Le juge des enfants peut très bien considérer que la prise en charge de l'enfant est inadaptée au domicile, même outre le syndrome du bébé secoué, parce qu'il y a des difficultés sociales, parce qu'il y a des problèmes de toxicomanie, etc., et maintenir le placement. Ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, au niveau de l'enquête pénale, on ne considérera pas que finalement, il n'y a pas lieu à retenir des violences, parce que on n'arrivera pas à établir l'existence du syndrome du bébé secoué, ou alors tout simplement, on ne saura pas qui a secoué le bébé. Inversement, le juge des enfants peut très bien avoir des éléments très rassurants, décider souverainement de restituer l'enfant à sa famille, ça n'empêchera pas le juge d'instruction de considérer, lui par ailleurs, avec les éléments de son dossier, qu'il y a bien eu bébé secoué et qu'un des parents est en cause. C'est deux champs qui sont complètement distincts. Donc on va dire que les décisions du juge des enfants n'influencent pas l'enquête pénale parce qu'en fait elles n'ont pas du tout pour objectif de déterminer est-ce qu'il y a eu violence, oui ou non, etc. Par contre, les décisions du juge d'instruction, c'est sûr que s'il y a un parent qui est renvoyé devant la cour d'assises par le juge d'instruction pour avoir secoué un bébé, ça ne va pas inciter le juge des enfants à restituer l'enfant. Mais ce sont deux magistrats complètement indépendants. Ils communiquent, ils se parlent, ils se transmettent des pièces, mais les deux types de décisions sont complètement indépendants l'un de l'autre, en théorie en tout cas.
Il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années avant que la procédure arrive au bout. Il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années avant que des parents qui n'auraient pas été mis en examen ou qui auraient été blanchis récupèrent leur enfant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Donc les inquiétudes persistent, une décision de placement peut se maintenir au juge des enfants, il n'est pas du tout enfermé dans un délai. Ce qui compte encore une fois, c'est l'intérêt de l'enfant, donc ça va jusqu'à la majorité. Pour le juge d'instruction, dans l'idéal, on aimerait tous avoir des enquêtes rapides, parce qu'en plus c'est vrai que souvent, le juge des enfants est en attente aussi de la décision du juge d'instruction, de voir est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, comme on dit ce dossier. Le juge d'instruction, malheureusement, lui, il est tributaire de beaucoup de choses, notamment le manque de moyens. Un dossier d'instruction, ça se construit. Il faut être sûr, avant de clôturer son instruction, qu'on a vraiment fermé toutes les portes. C'est-à-dire que le juge d'instruction, lui, son rôle, c'est pas d'entrer dans une version. C'est d'être sûr que dans son dossier, il y a tous les actes possibles pour arriver à la manifestation de la vérité. Donc il y a plusieurs choses qui vont, ce qu'on dit, plomber nos délais en quelque sorte. C'est premièrement les délais d'expertise. Et dans ce genre de dossier, on sait que souvent il y a expertise médicale, potentiellement contre-expertise médicale, collège d'experts spécialistes du bébé secoué, etc. Donc rien que le fait d'obtenir un rapport d'expertise définitif, ça peut prendre un an. Ensuite, va y avoir le fait qu'il faut entendre les parents, il faut entendre un certain nombre de témoins qui vont être entendus par les policiers ou les gendarmes, mais ça peut prendre du temps aussi. Des fois, on est en attente aussi de la consolidation de l'état de l'enfant, c'est-à-dire voir est-ce que c'est un enfant qui a une infirmité permanente ou pas, etc. Et donc, il y a déjà des délais un petit peu incompressibles, on va dire, qui sont dus aux éléments extérieurs. Et en plus, il faut savoir que les juges d'instruction, du coup, ont plus d'une centaine de dossiers à gérer dans chaque cabinet. Que souvent, dans les dossiers de bébés secoués, il n'y a pas forcément de détention provisoire parce qu'il n'y a pas forcément d'auteur identifié, etc. Et que autant pour les dossiers avec détention provisoire, on est enfermé dans des délais contraints parce qu'il faut qu'on aille plus vite parce que quelqu'un est incarcéré, c'est normal. Autant, du coup, forcément, bah, les dossiers où il n'y a personne qui est incarcéré, on essaye de les traiter aussi, mais la priorité n'est pas la même. Et voilà, quand on a 140 dossiers dans son cabinet, on fait ce qu'on peut dans chaque dossier, mais on ne peut pas non plus faire avancer le dossier aussi vite qu'on le souhaiterait.
Vous, en tant que substitut, vous avez des retours sur ce qui se passe après votre première décision ?
Alors moi, je perds la main sur la décision. C'est-à-dire que je ne suis plus organe de décision ni dans un dossier ni dans l'autre. Je ne peux plus ordonner d'acte d'enquête. Je ne peux pas décider moi toute seule de placer un enfant alors qu'il y a un juge des enfants qui est saisi, etc. Par contre, on est au parquet partie à la procédure. C'est-à-dire que si je ne suis pas en accord avec une décision du juge des enfants, j'ai un droit d'appel, comme les parents ont un droit d'appel, comme l'aide sociale à l'enfance, potentiellement un droit d'appel si l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfant. Donc je peux contester les décisions, elles me sont notifiées. Et si je ne suis pas en accord avec une restitution de l'enfant aux parents, par exemple, ou avec un droit de visite qui ne me paraît pas approprié, ou avec un maintien du placement qui ne me paraît pas approprié non plus, je peux faire appel. Et à ce moment-là, c'est la cour d'appel qui tranchera. C'est la même chose à l'instruction, c'est-à-dire que le juge d'instruction met le dossier à disposition du parquet, donc à intervalles réguliers, on peut aller le consulter comme toutes les parties au dossier, et on peut solliciter du juge d'instruction la même chose que pour n'importe quelle partie, on peut solliciter à ce qu'il fasse des actes, et encore une fois, si le juge d'instruction n'est pas d'accord avec nous, on peut faire appel de ses décisions devant la cour d'appel. Donc en fait, on devient une partie classique.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de bébés secoués à Nancy ? Est-ce que c'est une grosse part de votre travail quand on est substitut spécialisé dans les mineurs, ou pas vraiment ?
Grosse part, je dirais pas, enfin, c'est une part. Après, en plus, l'activité du CHRU de Nancy n'est pas révélatrice parce qu'on centralise quand même beaucoup de cas qui viennent un petit peu tout le Grand Est, voire au-delà.
Est-ce que les bébés secoués, c'est vraiment un phénomène important, ou est-ce que c'est vraiment à la marge de votre travail ?
C'est pas un phénomène, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une épidémie de bébés secoués. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, ni même toutes les semaines. Les bébés secoués, c'est peut-être 2 à 3 cas par an. Qui vont nous concerner directement, voilà. Contrairement aux violences sur les mineurs, qui pour le coup sont un vrai phénomène endémique. Je veux dire, le bébé secoué en tant que tel, ça reste quand même quelque chose de très spécifique. Enfin, c'est pas non plus un des dossiers qu'on a l'habitude de traiter, d'où le fait d'ailleurs que c'est aussi important qu'on en parle et qu'on se transmette nos expériences les uns les autres, parce que bon, voilà, c'est heureusement pas quelque chose qui arrive de manière très fréquente.
Est-ce qu'au final, vous avez une proportion de personnes qui sont accusées de bébés secoués, qui sont acquittées ou condamnées ? Vous savez comment ça se passe ?
Je dirais qu'il y a tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers dans lesquels on a beau avoir mis tous les moyens d'investigation en œuvre, on sait qu'il y a eu un bébé secoué, mais on n'arrivera jamais à savoir qui. Sachant que nous, il faut vraiment qu'on arrive à l'imputer à une personne précise. On ne peut pas renvoyer, par exemple, le père et la mère en disant on sait que c'est soit l'un ou soit l'autre, donc on va les envoyer tous les deux. C'est pas possible, il faut qu'on sache que c'est l'un ou l'autre. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne part de dossiers, peut-être la moitié, qui en fait vont donner lieu à des non-lieux au bénéfice du doute, en quelque sorte. On sait qu'il a été secoué, on saura jamais qui c'est. Ça, c'est la limite de l'action judiciaire, et enfin, c'est aussi la beauté de l'institution judiciaire, c'est qu'on n'accuse pas sans preuve. Il faut vraiment qu'on arrive à démontrer la culpabilité de quelqu'un. Donc il y a peut-être la moitié des dossiers qui vont se finir comme ça. Il y a une partie des dossiers qui va se finir aux assises. Il y a des dossiers aussi qui peuvent très bien finir en correctionnel. Un bébé secoué où il n'y a pas eu d'infirmité permanente, ça reste une qualification délictuelle. Donc ça reste des violences sur mineurs aggravées, etc. Mais on peut très bien se retrouver en correctionnel. Il me semble qu'on a eu un cas d'acquittement dans les dernières années à la cour d'assises pour un syndrome du bébé secoué. Après, c'est le même aléa. Je veux dire que dans la plupart des dossiers qu'on voit aux assises, il y a un taux d'acquittement qui existe. Mais c'est quand même relativement rare. En général, quand on renvoie aux assises, c'est qu'il y a quand même le parquet qui est passé par là, le juge d'instruction qui est passé par là, la chambre de l'instruction qui est passée par là. Donc c'est que le dossier est quand même suffisamment solide, normalement, pour mener à la condamnation de la personne.
Vous disiez, on ne remet pas en cause le fait que le bébé ait été secoué. Ça veut dire qu'on ne remet pas en cause la parole du médecin. Quelles sont les condamnations possibles quand on est reconnu coupable d'avoir secoué son bébé ? J'imagine qu'il y a toute une palette selon les conséquences.
Alors, si c'est des violences simples en correctionnel, donc ça va être, et admettons par exemple, par miracle, l'enfant n'a aucune incapacité totale de travail, ça va être une peine d'emprisonnement de 3 ans. Parce qu'en général, c'est des bébés, enfin, bébés secoués par définition, donc violence sur mineur de 15 ans, c'est 3 ans encourus en correctionnel. Et ça peut aller, si ce sont des violences qui ont entraîné la mort de l'enfant, ça peut même être un meurtre, hein, parce que si jamais on a un syndrome du Bescoué qui a été fait volontairement dans l'intention de tuer l'enfant, on peut aller jusqu'à la perpétuité aux assises.
J'ai une dernière question et vous avez un petit peu répondu avant. Il y a un professeur qui m'a dit récemment, ce n'est pas parce qu'il y a eu un non-lieu que les personnes sont innocentes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est tout à fait juste. En fait, comme je vous l'ai dit, nous on fonctionne sur le principe de la présomption d'innocence. C'est un principe fondamental du droit pénal français, c'est un principe dont on est très fier et à juste titre, qui, en gros, le principe, c'est de dire on fait tout pour ne jamais condamner un innocent, donc si on a le moindre doute, on ne condamne pas, on ne renvoie pas. La conséquence, c'est que non-lieu, ça ne veut pas dire ça n'a pas existé. Non-lieu, ça veut dire nous n'avons pas réuni les éléments qui permettent d'affirmer avec suffisamment de certitude que telle personne a commis tel acte. Donc, entre l'innocence et la culpabilité, il y a une espèce de zone grise qui s'appelle la présomption d'innocence, où c'est en fait, on ne sait pas. Donc, je ne peux pas dire à 100% que cette personne est innocente. Je ne peux pas dire avec une certitude suffisante que cette personne est coupable. Donc, je suis dans la zone grise et là, j'accepte finalement ma position d'institution judiciaire qui est, là, nous ne savons pas, nous n'aurons jamais de vérité judiciaire dans tel dossier. Et donc, on ne sait pas si c'est innocent, si c'est coupable, c'est la zone intermédiaire. Et le reste, finalement, ça appartient un petit peu à d'autres types de vérités que chacun garde pour soi.
Merci à Elsa Pincet, substitut du procureur au tribunal de Nancy. Je vous invite à lire notre dossier complet sur notre site internet. Les liens sont dans la description du podcast.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.